Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
Je pense que rien n'est possible sans rencontre en vrai, quelle qu'elle soit, même la plus infime. C'est pas forcément des rencontres avec des gens qui ont de l'influence, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste une phrase, un mot, un moment qui va marquer ta vie et qui va changer quelque chose, qui va t'amener à la suite de ta vie, quoi.
Aujourd'hui, je rencontre Clémentine Lévy, une femme aux multiples bascules. Mannequin, journaliste, DJ, créatrice du premier café fleuriste français et aujourd'hui designer floral en Mayenne dans une maison qu'elle rénove. Vous l'avez peut-être déjà vu dans Clic sur Canal+, émission dans laquelle elle était chroniqueuse, ou alors chez Peonies, son café fleuriste parisien du 10e arrondissement qu'elle a maintenant fermé pour d'autres aventures. Tout a l'air fluide dans le parcours de Clémentine et pourtant, ça a été semé de doutes, de galères, d'horaires à rallonge qu'elle raconte ici avec humour. Elle fait partie de ces gens qui donnent envie de se lancer, car avec du travail et de la détermination, tout paraît possible. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Clémentine devant ses bouquets de fleurs. Belle écoute!
Alors, je m'appelle Clémentine, j'ai bientôt 35 ans et actuellement, je suis designer floral.
Oui, parce qu'on va le voir, tu as eu plein de vies avant ça, ce qui est l'objet de ton invitation sur le podcast. Tu as notamment été très brièvement mannequin, journaliste, enfin bref, tu as fait plein de choses.
Oui, c'est ça, beaucoup d'activités différentes en 15 ans.
Et donc, si on revient, toi, sur les débuts de ton parcours, qu'est-ce que tu fais comme études où est-ce que tu vis quand tu es jeune?
Alors, quand j'étais plus jeune, alors déjà, je suis née en Normandie, à Caen. J'ai fait mes études jusqu'en deuxième année de fac là-bas. Alors, au départ, je voulais être journaliste dans la mode, dans la culture. Donc, j'avais fait une formation en ce sens, médiation culturelle, pour être plus précise. Et après, mon objectif depuis toute petite, en fait, depuis que j'ai 5 ans, je disais à ma famille que de toute façon, j'irais vivre à Paris et pas ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait, mais j'ai attendu donc un peu avant mes 19 ans pour y aller. Je suis rentrée en troisième année de fac à la Sorbonne Nouvelle en information communication. Une formation qui a duré 2 ans et qui, pour être parfaitement honnête, ne m'a servi à rien du tout dans ma vie professionnelle, mais vraiment du tout, du tout. Mais voilà, mes études, en tout cas,
donc
c'est
ça. On ne recommande pas.
Pas trop. Et surtout qu'en plus, j'ai appris là, il y a à peine quelques jours, que cette fac avait fermé. Donc, je comprends aussi pourquoi.
Et du coup, le mannequinat, ça arrive un peu par hasard.
Complètement par hasard. Donc, au tout départ, pour déjà payer mon loyer et puis commencer à mettre un pied à l'étrier dans la vie professionnelle, je faisais pas mal de stages dans la mode. Mon premier stage, ça a été à l'Express Style, donc à la rubrique mode. Et j'ai commencé, en fait, à tout d'abord à me rendre à des défilés juste comme ça, en simple spectatrice, grâce à ma boss hein, de l'époque qui me donnait des invitations très gentiment. Et c'était le grand boom à l'époque des photos de street style. Tu sais, des blogs de street style où on prenait en photo toutes les filles, ouais, tous les garçons qui rentraient, sortaient des défilés pour détailler un petit peu leur look. Et moi, j'ai commencé à être prise en photo à ces endroits-là. Et j'ai rencontré une photographe qui est ensuite devenue une amie qui m'a dit « Mais pourquoi tu démarches pas des agences ?» Et sur le coup, j'avais pas trop pensé forcément à ça parce que je me pensais trop petite, pas forcément à la page, pas forcément le genre de nana que les agences pouvaient chercher. Et je me suis lancée, j'ai démarché pas mal d'agences sur ouais, une bonne quinzaine. Il y en a une qui m'a répondu OK, on verra, on va voir. Et par la suite, j'ai surtout vraiment principalement fait des campagnes, des showrooms, des choses comme ça, principalement avec mes contacts en fait. Les agences m'ont pas forcément aidée pour ça. C'est vraiment les rencontres qui m'ont amenée à faire des shootings, des tournages, des choses comme ça. Et c'est comme ça que ouais, j'ai quand même réussi à vivre de ce métier pendant presque 10 ans.
Ah oui, mais je pensais que c'était beaucoup plus court que ça. Je pensais que tu avais fait beaucoup plus de journalisme. Ah, et tu as quand même fait une dizaine
d'années.
Ouais.
Ouais. Non, la partie journalisme a été beaucoup plus courte. Ça a été presque sur la fin, en fait, de ma phase mannequinat, où vraiment je me posais pas mal de questions justement sur l'avenir un peu de ce métier dans la mode, parce que clairement, je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. Et puis, j'avais envie de faire des choses... dont j'étais un peu fière. Enfin, j'avais envie un peu de grosse remise en question sur est-ce que mes études vont peut-être quand même un tout petit peu me servir ou pas. Est-ce que je peux renouer un peu avec mon amour premier. Et encore une fois, suite à des rencontres, du coup, je me suis retrouvée à être chroniqueuse sur Canal dans la première version de Click, l'émission de Mouloud Achour, qui a duré un an sous cette version, donc en plateau, etc., avec des chroniqueurs. Et ça a été... une expérience, on va dire, parmi tant d'autres. J'ai très vite compris que c'était pas ça qui allait être ma cam, comme on dit. aussi parce que moi, je me suis plus sentie comme la jolie nénette qu'on met sur un plateau. Et voilà, et c'était vraiment tout l'opposé de ce que j'avais envie de véhiculer comme image. Donc, quand l'émission n'a pas été reconduite dans cet esprit-là, dans cette configuration-là, ça m'allait très bien parce que voilà, je suis allée au bout, j'ai fait mon année, j'ai appris plein de choses, mais j'ai surtout su ce que je ne voulais pas et ce que je ne voulais plus. C'était qu'on me considère juste pour une image. Donc, ce que j'ai fait pendant des années, en fait, en tant que mannequin. Mais là, vraiment, cette diffusion comme ça à grande échelle et de ne pas laisser m'exprimer comme je voulais, c'était pas du tout mon objectif dans la vie.
Et du coup, à ce moment-là, donc, quand tu arrêtes cette expérience, tu as encore un peu de mannequinat, etc. Mais est-ce que ça te ramène un peu à la case départ de qu'est-ce que tu fais après, ou alors tu as d'autres idées, d'autres envies
Ça me remet complètement à la case départ, mais vraiment, enfin, tu peux pas trouver une meilleure expression, parce que je me suis retrouvée dans une phase où je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, tout simplement, parce que voilà, le mannequinat, du coup, comme je l'avais arrêté pendant un temps, parce que je me suis dit, bon, à juste titre, je pense, comme beaucoup de jeunes femmes qui démarrent à la télé, bon, ça veut dire que je peux plus accepter les jobs que je faisais avant, parce que soit ça va pas être assez bien, soit ça peut m'apporter une mauvaise image ou autre, donc j'ai vraiment coupé court, en fait, avec mes agences. Et avec mes relations diverses qui du coup se disaient bon ben voilà, on va plus la faire travailler, et je me suis retrouvée vraiment dans un désert professionnel où vraiment la question c'était qu'est-ce que je vais faire, comment je vais gagner ma vie et surtout comment je vais trouver quelque chose qui vraiment me plaît vraiment, parce que c'était l'essentiel pour moi. J'ai toujours fait des activités qui me stimulaient, qui me plaisaient, donc l'idée c'était pas du tout de prendre un job pour lambda, entre guillemets. J'aime pas non plus cette expression-là, mais tu me comprends, je voulais pas prendre quelque chose par défaut. Voilà, c'était ça que je voulais pas. Et Et puis surtout, on est suivi vraiment une période aussi où psychologiquement parlant, c'était compliqué parce que bah, tout s'est arrêté un peu du jour au lendemain. J'avais mis quand même un petit peu d'espoir dans ce métier-là aussi, dans cette nouvelle casquette. Donc, j'y croyais quand même pas mal. Et après, voilà, il y a un nouveau projet qui m'a complètement relevé. En fait, ça part d'un moment triste dans ma vie. J'ai perdu ma grand-mère paternelle, j'ai perdu ma grand-mère paternelle de la maladie d'Alzheimer. Et ça a eu un peu un déclic pour moi, et c'était une période aussi où il y avait un grand boom des carnets de coloriage, et même moi j'étais très cliente en fait de ça parce que ça m'apaisait beaucoup et ça me permettait de m'évader un petit peu, et j'ai eu envie d'en monter un au profit de France Alzheimer, l'association, pour faire complètement un véritable clin d'œil à ma grand-mère, quoi, vraiment quelque chose pour m'aider aussi à faire mon deuil, hein, clairement, ça a vraiment été ça. Et j'ai fait participer des artistes de tout genre qui ont une patte quand même, des vrais dessinateurs, mais aussi des gens qui sont des personnalités publiques avec un attrait pour le dessin. Et tous m'ont réalisé un dessin, donc crayon juste noir sur blanc, à colorier. Et j'ai été éditée par Le Cherche Midi, qui a été la première et seule, enfin première maison d'édition et la seule que j'avais démarchée en fait, à qui acceptait tout de suite. Donc ça a été un nouveau projet génial parce que j'ai monté un projet de A à Z, un projet en plus en édition, j'avais jamais fait ça. Et clairement, ça m'a relevé, mais complètement. Enfin vraiment, ça m'a, ça m'a vraiment sauvé quoi, vraiment d'un point de vue.
Non, mais déjà, t'avais un peu cette fibre de créer des trucs, tu vois, de mener à bien des projets.
En vrai, c'était la première fois. Je l'avais jamais fait, en fait. Je l'avais vraiment jamais fait, mais c'était en ce moment, tu fais pas grand-chose, ma cocotte. Et t'as une idée, donc vas-y, parce que d'habitude, c'est toujours un petit peu les autres qui t'amènent un peu sur un plateau des jobs ou des opportunités ou des trucs. Donc là, maintenant que tu as une idée, vas-y, quoi. Et clairement, c'est mon compagnon aussi qui m'a dit ça, qui m'a dit, mais vas-y, Clem, tu as une idée, donc va au bout de ton truc. Et puis si ça marche pas, ça marche pas, au moins tu auras essayé. Et je pense que l'envie entrepreneuriale est vraiment arrivée à ce moment-là, en fait, de se dire que je pouvais monter quelque chose de A à Z, pas seule, parce que je faisais participer des gens, mais vraiment de monter un projet, en tout cas, avec toutes les contraintes, tout ce qu'il y a à faire pour mettre sur pied quelque chose, quoi.
Les prémices d'autres trucs qui vont arriver. Donc tu fais ce projet, et après, donc c'est quoi, ça a duré une petite année?
Ouais, ça a été une année. Ça a été, en fait, Click s'est arrêté à l'été 2013, et moi j'ai bossé pendant un an dessus. Et si je dis pas de bêtises, je crois que, mais même pas, en fait, ça a duré un peu moins de temps que ça, hein, parce que je crois que vraiment on l'a monté assez rapidement, et je crois que Click s'est arrêté en juin, et je crois bien que le carnet est sorti à la rentrée. À rentrée 2013, je ne vais pas dire de bêtises, mais 2013 ou 2014, je ne me souviens plus, c'était il y a 10 ans. Je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, c'est un projet qui m'a pris 100% de mon temps. Ça oui, c'est sûr.
Et alors après ça, du coup, comment tu fais pour penser à la suite, enfin, pour savoir comment tu vas gagner ta vie, etc. Comment tu t'aides justement dans cette phase un peu de recherche, ouais, d'exploration?
Là, en fait, à ce moment-là, j'ai repris une activité que j'avais déjà commencé un petit peu avant Click. C'était d'être DJ en soirée, de mixer en fait à des soirées presse. Dans la mode,
j'ai fait ça aussi.
dans la mode, etc. En fait, mon compagnon, encore une fois, toujours le même, qui est toujours là, et est un musicien. Il avait appris à mixer tout seul, et il mixait dans un club à Paris avec sa meilleure amie. Et puis bon, moi, j'avais envie un peu d'essayer aussi, parce que j'aime vraiment beaucoup la musique, et surtout j'aime beaucoup passer de la musique et voir que les gens me disent « Mais non, tu la connais celle-là, c'est génial !» Enfin voilà, on a tous eu ce petit moment comme ça en soirée où voilà, on a mis une chanson et tout le monde était complètement dingue. Enfin, je pense que personne je défie quiconque de ne pas apprécier ce moment, quoi. Il m'a appris un petit peu, d'abord sur des petites mixettes, hein, vraiment pas des trucs très pro, des petites mixettes à enchaîner correctement des sons, et grâce à tous les contacts que j'avais pu avoir dans la mode auparavant, dans la presse et compagnie, j'ai commencé à mixer sur des soirées presse, événementielles, pour des marques, etc.
Mais attends, mais comment tu te formes? Parce que tu dis ça de manière assez quand même DJ, tu vois, il y a quand même des bases.
Oui, bah complètement. Bah, je te dis, là encore une fois, c'est vraiment mon compagnon qui m'a appris à gérer les logiciels, en fait. Hein, parce qu'à la base, donc, c'était vraiment sur une platine que n'importe qui peut s'acheter dans un magasin de musique. Hein. Et ensuite, tu as un logiciel, donc tu étudies les logiciels sur ton ordinateur pour savoir voilà, comment faire pour faire des transitions correctes pour que quand tu passes d'un son à un autre, ça se passe bien et qu'il y ait vraiment... tout est une question de rythme, en fait, pour que vraiment voilà, le son que tu choisis qui vient après soit dans le même, on dit le BPM. Donc le BPM, c'est le rythme, c'est le battement par minute, donc c'est le rythme vraiment, que ce soit dans le même rythme, dans la même veine, et que ça s'enchaîne correctement. Et que voilà, quand tu as une soirée, c'est rare que les gens font stop et après play. C'est dans une soirée professionnelle, j'entends, hein, événementielle. C'est vraiment comme une vraie playlist qui s'enchaîne. Et moi, du coup, j'ai appris à faire ça à force d'essayer. Tu fais des essais, tu appuies sur tous les boutons, tu testes. Et puis, tu finis par réussir à faire quelque chose qui est cohérent et qui est joli et qui s'écoute sans que ton oreille dise « Oh, c'est bizarre, elle est passée de ça à ça, c'est très, très moche. » Voilà. Et clairement, au début, bah, voilà, je pense que mes premiers mix n'étaient pas dingo. Et à force de pratique... ça a fini par bien fonctionner, j'ai fini par être reprise dans pas mal d'événements assez régulièrement. J'ai fini, c'était mon dernier vraiment très très gros mix, j'ai fini par atterrir au Grand Palais pour mixer à la soirée de lancement de l'exposition Jean-Paul Gaultier au Grand Palais.
Okay.
Et c'était complètement dingue, enfin, de mixer comme ça. Je dis toujours, j'ai mixé pieds nus derrière mes platines au Grand Palais avec Jean-Paul Gaultier qui dansait. Enfin, c'était juste incroyable pour moi de vivre une expérience pareille. Et que ce soit Jean-Paul Gaultier ou qui que ce soit d'autre, juste de voir les gens aimer la musique que tu passes et vraiment s'éclater, c'était un bonheur infini pour moi. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette activité là. C'est quelque chose que je ne fais plus du tout et qui me manque pour le coup, mais j'ai vraiment adoré faire ça. C'était trop bien.
Mais c'est génial. Mais alors du coup, ça veut dire que tes idées, elles te viennent un peu, enfin là en l'occurrence, c'était plus parce que tu avais quelqu'un dans ton entourage qui faisait ça. Que ça t'est venu, ouais, comme tu le dis, c'est beaucoup des rencontres qui t'ont orienté.
Complètement. Ma vie, ce n'est que ça, en fait. Vraiment, toutes mes activités professionnelles, ce n'est... Après, je pense que c'est souvent le cas. On est amené à faire une rencontre qui va changer ta vie, qui va changer ta vision d'une chose en particulier, et ça va lier ensuite... ça va faire des connexions avec la suite de ton parcours. Je pense que rien n'est possible sans rencontre, en vrai, quelle qu'elle soit. Même la plus infime, même... je sais pas, tu peux rencontrer une mamie qui va te dire une phrase qui va te révéler quelque chose, comme tu peux rencontrer un copain qui bosse dans telle boîte et qui va te dire « Attends, je vais te présenter machin ». Pour moi, les rencontres, c'est pas forcément des rencontres avec des gens qui sont tout de suite dans le milieu, qui ont de l'influence, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste une phrase, un mot, un moment qui va marquer ta vie et qui va changer quelque chose, qui va switcher quelque chose dans ton cerveau et qui va t'amener à la suite de ta vie, quoi.
Et dans tous tes moments un peu de bascule, t'as pas de doute ou je sais pas, ou de peur, ou tu te projettes pas, en fait, tu dis juste à ce moment-là j'ai envie d'apprendre ce truc-là et tu te mets à fond, ou alors t'as quand même des angoisses?
Oh bah si, à chaque fois. Si, vraiment à chaque fois, mais constamment. Enfin, déjà, je suis quelqu'un d'assez peureux, enfin, d'assez stressé déjà de base. Donc oui, clairement, quand je me lançais dans chaque nouvelle activité que j'ai pu faire, on en parle beaucoup, mais je vais le redire quand même, le fameux syndrome de l'imposteur. Surtout quand t'as pas fait d'études pour, quand tu sors un peu de nulle part, encore en plus quand t'es une femme qui vient du mannequinat aussi, etc. Et encore une fois, la jolie fille qu'on met dans un coin, elle a eu ça parce qu'elle est jolie et blablabla, et blablabla. Ça, je me suis battue et je me bats encore pour ça. Enfin, contre ça, pour essayer vraiment de justifier ma place, de justifier ce que je fais, ce que j'ai toujours fait, toutes les activités que j'ai pu faire, etc. Je me suis toujours battue pour justifier ma place, et donc la peur venait inévitablement avec, parce que la peur de décevoir, la peur de me planter, la peur que les gens se disent « Oh là là, mais pourquoi on l'a bookée ? Elle est nulle. Voilà, parce que la musique n'est pas bien, les photos ne sont pas bien. Le carré de coloriage, bon, nous a mis un truc en tête et au final, finalement, ce n'est pas si joli. » Enfin, voilà. Moi, il n'y a pas eu une seule activité, il n'y a pas eu un seul projet où j'ai pas eu peur. J'ai toujours eu peur, j'ai toujours angoissé. J'avais confiance en ce que je faisais, j'y croyais, mais je me remettais en question tout le temps. Je me posais des questions H24. Enfin, pour moi, ça va avec, en fait, parce que ça stimule d'un côté. La peur, elle doit pas non plus être quelque chose qui te bride. Après, c'est facile à dire, hein, mais il faut essayer d'en faire plutôt un moteur plutôt que quelque chose qui va te retenir en arrière. C'est ok, je pense toujours à cette réplique des bronzés sur le fond du ski, je sais plus laquelle des actrices dit ça, qui dit j'y vais mais j'ai peur. Bah, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est voilà, je le fais, mais voilà, si tu pouvais m'empêcher, voilà, si tu pouvais m'empêcher de le faire, ce serait cool.
Ok, non, mais c'est bien de effectivement, parce que quand on voit ton parcours qui finalement est assez fluide en fait, quand tu le retraces a posteriori, c'est toujours intéressant d'avoir aussi tu vois, l'inside de pour chaque bascule, tu te poses 1000 questions et toi, ta façon d'y faire face, c'est effectivement quand même de te mettre à fond dans le projet. De t'entraîner, de tester, de bosser.
Complètement, c'est ça. Et c'est vrai que, bah oui, sur le papier, c'est facile de dire, bah voilà, j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après j'ai fait ci, après j'ai fait ça. Parce que là, aujourd'hui, de le raconter comme ça, ça paraît évident, mais à l'époque, c'était pas si facile que ça. C'était, comme je disais, des remises en question constantes, c'était des marches arrière aussi, c'était pas assumé, c'était plein de choses, plein d'émotions différentes qui ont pu me traverser, plein d'obstacles aussi. Tout s'est pas fait comme ça aussi facilement. Enfin, j'ai eu des galères, comme tout le monde, quand on se lance dans une nouvelle activité. J'ai eu des gens qui m'ont rabaissé, j'ai eu vraiment tous les obstacles qu'on peut avoir quand on se lance dans ce genre de projet. Et encore, on n'a pas encore parlé de pionniste, d'ouvrir une boutique, de déménager à la campagne, tout ce genre de choses. On n'a pas encore parlé de cette phase-là, mais ça aussi, c'était encore autre chose.
Et donc, ta période DJ, elle dure combien de temps à peu près ?
Ma période DJ, je crois que j'ai dû mixer pendant peut-être 3 ou 4 ans où je faisais DJ et je continuais encore un petit peu à faire un petit peu de mannequinat par-ci par-là, et j'ai même continué à mixer aussi quand par la suite j'ai ouvert Pionise. Je continue encore un petit peu de temps en temps quand j'avais des projets vraiment avec des marques soit avec qui j'avais une histoire, soit qui me plaisaient vraiment beaucoup, hein. J'acceptais des contrats encore de DJ même quand j'avais la boutique. Ouais.
Oui, parce que du coup, Pionise, on va en venir, mais t'as monté un café fleuriste, donc rien à voir encore comme projet, ouverture de boutique, restauration, enfin rien à voir. Comment te vient cette nouvelle idée ?
Alors déjà, je tiens à dire que je ne viens pas du tout d'une famille de restaurateurs et ni d'entrepreneurs du tout. C'est parce que ça, je pense que c'est une chose importante aussi, parce que souvent on peut se dire ah mais c'est parce qu'elle a eu des exemples avant, etc. Et voilà, c'est pas quelque chose non plus que j'ai dîné. Comment j'ai ouvert Pionise, en fait. Encore une fois, Ludo, mon amoureux, lui aussi qui est un touche-à-tout aussi, qui est aussi un couteau suisse, voilà, mais ça ne s'invente pas, a retrouvé un voisin d'enfance qui est lui-même entrepreneur et qui avait très envie de s'associer pour ouvrir un lieu de vie à Paris. Et mon compagnon, depuis toujours, avait envie d'ouvrir un bar à cocktail, donc il a ouvert ce bar à cocktail avec ce monsieur. Et ce même monsieur avait un local dans le 10e arrondissement, rue du Faubourg Saint-Denis, qui était un local de téléphonie. Et il en était propriétaire, et en fait, il ne voulait pas le vendre, mais il voulait trouver un nouveau projet pour lui donner un second souffle, en fait, lancer quelque chose. Et à ce moment-là, moi, j'avais fini Click, j'avais fini mon carnet de coloriage. Je mixais encore un petit peu, mais je gagnais pas non plus ma vie assez pour continuer à vivre correctement. Et puis j'avais pas non plus d'objectifs professionnels vraiment qui m'épanouissaient. Donc Ludo m'a dit, bah écoute, voilà, j'ai discuté avec lui. Et si t'as une idée, et si tu te sens capable, est-ce que t'as envie de monter quelque chose dans ce local ? Et c'est vrai que ce truc d'avoir un peu mon petit salon de thé, etc., ça faisait partie des choses que j'avais en tête quand j'étais plus petite, mais que j'avais complètement mis de côté pendant des années. Et j'étais, à l'époque, c'était le plein boom des coffee shops à Paris. Et j'avais très envie d'avoir mon propre endroit à moi. Mais comme justement, il y avait déjà trop d'endroits qui ouvraient, j'avais très envie de proposer un truc en plus. Et j'ai commencé à regarder ce qui se passait à l'étranger, mais qu'il n'y avait pas encore en France et encore moins à Paris. Et j'ai trouvé ce concept de café et fleuriste. Et je me dis, mais c'est hyper chouette ça, d'avoir une partie petite restauration, café, gâteau, etc. Et puis aussi des bouquets de fleurs. Je voulais pas vraiment un vrai fleuriste où tu peux faire ton bouquet, tu demandes, je veux telle fleur, etc. Je voulais vraiment plus, je voyais ça petit au départ, je voyais ça plus à un dépôt de bouquets, de brassées de fleurs fraîches. J'en parlais encore il y a pas longtemps avec une amie. À l'époque, je le vendais comme ça. C'était plus une brassée de fleurs, un peu jardin, un peu champêtre. Et on repartait, après avoir bu son café, etc., on partait avec une brassée de fleurs. Donc, voilà, j'ai commencé à bosser là-dessus, à bosser surtout sur l'intérieur, la déco avec mon architecte, à bosser avec mon graphiste sur le logo, sur la charte graphique, sur tout ça, bosser sur le menu, me faire des boards d'inspiration gigantesques sur Pinterest, voilà, ça, on connaît tout ça.
Mais attends, mais comment tu fais? Parce que là, t'as un peu d'argent de côté à mettre dans le projet ou alors t'as des financeurs? Comment ça marche? Alors,
en fait, ce monsieur avec qui on s'est associé, c'était un peu comme un business angel, en fait. Il nous disait, voilà, je mets tant sur la table, avec ça, on peut faire les travaux, tu peux faire ta charte graphique, on peut faire tout ça. Et voilà. Et après, on était à 50-50 sur le projet. Donc, en gros, c'était vraiment un apporteur de projet, quoi. Enfin, moi, j'étais apporteur de projet et lui, c'était mon business angel.
Voilà. D'accord. Donc, génial.
Tombé du ciel, hein, vraiment, clairement. Encore une fois, une connaissance de connaissances, ils se sont revus, ils ont discuté, et puis voilà, c'est vraiment, c'est une chance infinie. Hein. J'ai pas fait de recherche, je ne suis pas allée vers lui. C'est plus la vie qui me l'a mis sur mon chemin, quoi. Voilà,
oui, surtout en ayant zéro expérience.
J'avais zéro expérience et j'avais, comme tu dis, zéro euro à mettre dans cette aventure. Vraiment, à part mes jours et mes nuits et ma sueur, je n'avais rien d'autre à mettre dedans, mais ça lui suffisait, il me faisait confiance et on y est allé, quoi. Et donc, je me suis formée parce que, je voulais faire ça bien, surtout notamment en termes de café, parce que pour moi, c'était la partie la plus importante du lieu. Donc, j'ai fait une formation en torréfaction avec les cafés coutumes, qui sont des qui sont
que j'aime beaucoup,
qui sont à Paris. Je sais pas s'ils ont des ateliers 7e, de torréfaction. Alors ils ont leur premier café était dans le 7e et ils avaient un atelier de torréfaction aussi dans le 10e, littéralement deux rues en plus derrière ma boutique, donc ce qui était assez pratique pour ma formation. Donc je me suis formée, que j'ai fait plusieurs semaines de formation là-bas, j'ai appris énormément et clairement, enfin là vraiment enfin une formation. On parle de la fac, etc. Mais là, c'était vraiment une formation concrète qui m'a servi tout le temps où j'ai pu travailler dans mon café. Et je voulais aussi avoir un minimum d'acquis quand même en fleurs, même si je voulais garder ce côté spontané et hors scolaire dont je me suis toujours démarquée depuis que j'avais commencé en fait ma vie professionnelle à Paris. Hein. Donc j'ai fait 4 jours de formation chez une designer florale à Paris qui s'appelle Catherine Müller, qui fait des formations plus pour toucher à la fleur. C'est pas une formation diplômante, c'est rien de tout ça. C'est vraiment pendant 4 jours, t'es entourée de fleurs, tu as des thèmes et tu reproduis les arrangements qu'elle te montre. Et moi, c'était vraiment pour m'assurer que j'aimais bien ça. Déjà, c'était un peu important quand même quand on ouvrait un café fleuriste. Et puis savoir si j'avais un petit quelque chose aussi pour pouvoir faire des bouquets, parce que sinon, ça voulait dire embaucher un fleuriste, et c'était pas la même donne après financièrement parlant. Donc voilà, j'avais besoin un peu de savoir si je pouvais porter les deux casquettes. Et en fait, très très vite, dès que j'ai commencé à composer, je me suis sentie tellement bien, tellement à ma place, tellement en phase. Enfin, c'était évident. Pour la première fois de ma vie, j'avais une évidence. Et vraiment, c'était « Ok, t'es au bon endroit, quoi. » Et je sais pas comment expliquer ça. Hein. Vraiment, c'était un ressenti complètement. Et de là, j'ai continué à pratiquer toute seule. Suite à ces 4 jours de formation, j'achetais des fleurs chez mon fleuriste. Quand j'ai eu ma carte d'acheteur à Rungis, je suis allée chercher mes fleurs à Rungis et j'ai composé. Tout ça en gérant les travaux de la boutique, finir ma formation aussi en café, trouver tout le matériel, parce que il faut du très bon matériel quand on ouvre un coffee shop, trouver mon cuisinier pâtissier, voilà. plein de choses, j'irai les.
Ça, tu t'es fait un peu entourer là-dessus, surtout vraiment les aspects logistiques, tu vois, qu'est-ce que tu fais avant quoi, les étapes, ou t'as vraiment fait seul
Alors, j'ai quand même fait une formation à la Bourse du Commerce de Paris qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. C'est la seule formation que j'ai eue vraiment d'un point de vue purement administratif et vraiment dans le dur, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui fait peur à chacune d'entre nous, toute cette partie-là. Mais ça m'a beaucoup servi. Ça a été clairement, c'était très, 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 très théorique, très, 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 très scolaire. Mais je suis repartie avec une paperasse gigantesque, des dossiers de feuilles à remplir. Mais j'ai aussi appris énormément et surtout j'ai appris toutes les étapes pour pouvoir ouvrir dans les clous, ma boutique. Parce que c'était ça, c'était OK, dans Google, comment faire pour ouvrir un salon de thé? Quelles sont les normes d'hygiène? Quels sont les diplômes que je dois passer? J'ai dû passer un diplôme aussi en HACCP, donc en hygiène, pour pouvoir vendre de la nourriture. Voilà, toutes ces petites choses-là, comment ouvrir un fonds de commerce, comment obtenir des autorisations à la mairie, etc. Voilà, toutes ces étapes-là, c'est clairement pas les meilleurs souvenirs, mais maintenant, pour te dire, je me rappelle même plus vraiment tout ce que j'ai pu faire, parce que je me disais à l'époque, tu y repenseras même plus, tu laisseras ça derrière toi, parce que c'est la partie la moins sexy, hein, ça c'est évident. Mais voilà, très très vite, j'ai ouvert relativement vite parce que l'idée m'est venue, c'était en octobre 2015, enfin c'est vite, bon, quand même, l'idée vraiment est venue en octobre 2015 et j'ai ouvert en octobre 2016. Donc c'est un an, tout pile un an,
et quand même
voilà, le premier jour vraiment même de l'idée. Donc c'est pour te dire que à ce moment-là, pendant 2-3 mois, il s'est pas passé grand-chose à part des moodboards de Pinterest, quoi. C'était, voilà. Après tout s'est accéléré quand on a eu l'accord pour les travaux, c'est ça en fait qui prend le plus de temps, et surtout à Paris, c'est d'avoir l'accord de la mairie, c'est de pouvoir changer le pas de porte, changer la devanture, toutes ces choses-là en fait, c'est l'administratif qui prend le plus de temps dans ce genre de projet.
Ouais, donc un an, et ce que tu fais bien dire aussi, c'est que tu as pris le temps de te former. Donc ce qu'on peut conseiller aux gens qui ont envie de se lancer dans ce genre de projet, c'est que tes formations, tu peux les faire quand tu es encore dans ton job, par exemple, tes tableaux Pinterest aussi.
Complètement, moi c'est ce que j'ai fait.
Tu peux gagner du temps.
Ouais. J'ai fait mes deux formations, la boutique était en travaux. Donc, c'était vraiment... C'est pour ça que moi je dis que ça s'est fait assez vite. Parce que j'ai pas fait de CAP fleuriste, j'ai pas bossé 4 ans dans un coffee shop avant d'ouvrir le mien. Voilà, j'ai appris les deux métiers et j'ai ouvert la boutique en 12 mois. Donc ça peut paraître vraiment très 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 rapide. Pour les gens qui sont dans ce métier et qui savent à quel point c'est long et fastidieux de devenir ces deux corps de métier-là, ça peut paraître rapide.
Et alors, tes premiers jours d'ouverture, ça se passe comment?
Alors, je me rappellerai toujours, encore une fois, j'en reparlais il n'y a pas très longtemps, je me rappellerai toujours du jus du tout premier jour, enfin, ce qui devait être officiellement le premier jour. J'avais eu le blog parisien My Little Paris, qui est un peu la bible pour toutes les parisiennes, des nouveaux spots qui vont ouvrir, etc. Ils avaient eu vent du premier café fleuriste parisien, donc Pionise, et ils étaient venus faire une pré-visite au café, ils avaient pris quelques photos et puis ils avaient annoncé sur leur blog demain, ouverture du premier café fleuriste à Paris à telle heure, venez nombreuses, etc. Et oui, sauf que c'était le jour où Orange venait installer la fibre et ils se sont aperçus en fait que le câble était inaccessible ou je ne sais quoi, et donc je me suis retrouvée en travaux toute la matinée de ma matinée d'ouverture, donc avec le rideau à demi baissé. Et toutes les 30 secondes, des têtes en dessous qui passaient et qui me disaient « Bah alors, c'est bien vous êtes ouvert ou pas ?» Je suis désolée, repassez cet après-midi, il y a Orange, il y a la fibre, etc. » Tout le monde vraiment adorable qui me disait « Oh, vous inquiétez pas, c'est normal, il y a toujours des couacs quand on ouvre et tout. » Mais moi, j'étais au bout de ma vie, je me disais « Mais mon Dieu, comment tu peux autant rater ton ouverture, quoi ?» Donc voilà, au final, c'était une fausse ouverture. Donc ça aussi, c'est un conseil, faites des pré-ouvertures quand vous ouvrez des boutiques. Faites des pré-ouvertures où vous n'annoncez pas que vous ouvrez. Comme ça, vous pouvez vous faire un petit peu la main. Et s'il y a des couacs de travaux ou de quoi que ce soit, d'électricité, j'en sais rien, ben, au moins, vous savez que vous n'êtes pas, vous n'avez pas voilà, tout le monde qui débarque en voulant absolument prendre le premier café alors que votre machine, elle ne fonctionne même pas. Quoi. Voilà, ça ne faut pas.
Et passer donc les premiers aléas des premiers jours Ensuite, les premiers mois, ça se passe comment ? Ça décolle assez rapidement ? T'es satisfaite ?
Ouais, ça va même très, très vite. En fait, au départ, je voulais vraiment être au four et au moulin. Donc, j'avais mon cuisinier pâtissier qui était là. Enfin, même pour te dire non, au départ...
Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais qu'est-ce que tu fais du coup exactement toi et de qui tu t'es entourée ?
Oui, alors en fait moi, au départ, je voulais être au four et au moulin. Je voulais pouvoir servir les cafés et faire les bouquets de fleurs. Donc vraiment, j'avais envie de préparer mes bouquets le matin avant l'ouverture et après de gérer toute la partie restauration le reste de la journée. Mais évidemment, d'avoir quelqu'un avec moi. Donc au départ, j'avais une cuisinière pâtissière, mais qui au bout d'un mois, en fait, n'a pas tenu le rythme parce qu'elle n'avait jamais travaillé en fait dans un café et elle s'est rendue compte que ça ne lui allait pas. Donc au bout d'un mois, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, c'était un bon aléa au bout d'un mois d'ouverture. Ouais. Et au final, en fait, j'ai trouvé une perle, un amour de cuisinier pâtissier qui est resté avec moi quasiment jusqu'à la fin et voilà, qui vraiment a fait partie de la réussite, hein, clairement, de Pionise. Et donc vraiment, voilà, au départ, je lui faisais toute la partie, toute la nourriture, salée et sucrée. Et moi, je servais les cafés et je faisais les bouquets de fleurs le matin. Donc quand j'allais à Rungis, j'allais à Rungis à 4h, je revenais, il était 5h30, je nettoyais mes fleurs, je faisais mes premiers bouquets et je restais après ouvert jusqu'à 20h. Au départ, j'avais des créneaux horaires qui étaient énormes.
Journée de dingue, ouais.
Énormes. Donc les premiers mois, c'était une fatigue intense, une satisfaction incroyable. J'ai perdu 10 kilos parce que juste j'étais debout tout le temps, je me levais très tôt, j'avais pas le temps de manger, etc. Mais j'étais heureuse, vraiment, c'était pas, je le subissais pas du tout. J'aimais ce que je faisais, j'étais très contente. Et puis l'hiver est arrivé, donc les ringistes à 4h du matin ont été un petit peu plus rudes. Voilà, et cette période, en fait, c'était aussi une grande période de renouveau en termes de fleuristes à Paris. Et j'avais ouvert notamment quasiment en même temps que le duo de Pampa, je sais pas si tu as connu.
Oui.
Qui, comme moi, a fermé depuis, mais en tout cas, on a ouvert quasiment en même temps nos projets, on a lancé nos projets en même temps. Et les filles avaient leurs ateliers à 10 minutes à pied de mon café. Et elles étaient venues me voir, on avait discuté, etc. On avait échangé, voilà, en tant que jeune entrepreneur qui soutiennent, quoi. Et les premiers mois d'hiver, pour moi, étaient tellement épuisants que Emmanuel, qui était plus sur la partie fleurs et qui faisait les ringis, m'avait dit « Attends, on va à Rungis ensemble. Tu précommandes ce que tu veux auprès des producteurs. Je te récupère les fleurs et toi tu viens les chercher un peu plus tard dans notre atelier. Elle dit tu peux pas faire des journées 4h-20h comme ça. C'est impossible. Donc grâce à elle j'ai eu vraiment un très très grand soutien pendant ces longues semaines d'hiver où j'ai pu avoir de l'aide de sa part et ça m'a aidée clairement à arriver jusqu'au printemps. Les premières vacances que j'ai quand même pris quelques jours autour de Noël ont été les meilleures vacances possibles que j'ai jamais eues. Ça m'a fait un bien fou. Et puis après, voilà, ça avait quand même très 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 bien marché dès le départ. Mon associé Business Angel, mais pour dire vraiment, ça a été mon partenaire professionnel sous toutes les formes parce qu'il m'aidait aussi à servir le week-end. Enfin, voilà, il était très 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 investi dans le projet. Et très rapidement, ça a vraiment très bien marché. Ça a explosé. Les brunchs, on était complètement débordés. Ça allait dans tous les sens. Donc, j'ai rapidement pu engager du monde. Donc, j'ai commencé à prendre d'abord une serveuse à mi-temps, puis deux serveuses à mi-temps. Où moi je faisais le reste des horaires en fait. Après ça s'est transformé en deux serveuses à temps plein, plus une fleuriste 2 jours par semaine qui faisait à chaque fois les ringis avec moi, mais que du coup je pouvais laisser dans l'atelier en train de préparer les bouquets pendant que moi je gérais l'administratif, les commandes, parce qu'on faisait aussi, on a commencé à faire beaucoup d'événementiels en fleurs. Moi qui au départ imaginais la partie fleurs vraiment comme un petit truc en plus. C'est devenu la preuve en est aujourd'hui, parce que je me considère unique plus que comme designer floral. Ça a pris une place incommensurable dès le départ en fait au café. On avait toujours beaucoup de monde au café. Ça a toujours bien fonctionné, mais la partie fleurs en extérieur fonctionnait vraiment aussi très très bien. On fleurissait beaucoup d'événements, beaucoup de marques, on faisait beaucoup de campagnes, de choses comme ça.
Et toi, tu pouvais te payer assez tôt, du coup, j'allais dire, au bout de quelques mois, tu pouvais déjà te sortir.
Oui, j'ai commencé à me verser un petit peu, mais chaque mois, c'était pas la même chose. Il y avait des mois où je pouvais me verser des salaires corrects, enfin voilà, genre un SMIC, quelque chose de très très correct pour un début d'activité. Et il y avait des mois, on va pas se mentir, quand j'ai commencé à engager, moi j'ai préféré baisser mon salaire pour pouvoir payer mon staff, hein, parce qu'il y a donc voilà, les mois plus compliqués, je me payais un peu moins, mais j'arrivais toujours, en tout cas, à me débrouiller, quoi. Mais moi, au départ, comme j'ai engagé très vite, j'étais obligée de revoir un peu à la baisse mon salaire pour pouvoir faire tourner ma boîte, quoi, tout simplement.
Parce que t'as engagé au bout de quoi? Au bout de quelques mois? Au bout de six mois.
En fait, j'avais déjà mon cuisinier, hein, dès le départ. Donc ça, c'était mon premier salaire fixe,
ouais.
Qui a toujours été. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à prendre des gens à mi-temps. Ouais.
Et donc là, le café se développe hyper bien. T'as la partie fleurs aussi, donc tu fais des événements en plus. Et toi, donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu bascules vraiment que sur la partie fleurs.
En fait, sur la partie, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on commençait à être à l'étroit, ma boutique était petite, hein, aussi bien là, on avait 15 places assises. Ouais, c'est ça, je crois. 15 places assises, donc ce qui est pas beaucoup. 15 places assises, et j'avais un tout petit minuscule atelier de 6 mètres carrés en sous-sol qui servait aussi de placard pour les emballages à emporter, etc. Enfin voilà, c'était un bazar infini. Et on a appris très vite avec mon associé que des bureaux se libéraient la porte d'à côté. Et je me suis dit, ok, go, j'avais déjà cette petite envie de profiter de ce lieu pour faire d'autres choses, pourquoi pas des ateliers, des choses comme ça. Voilà, j'avais envie de réunir des gens, j'avais envie de louer pour des événements, des choses comme ça. Parce que le lieu était grand, hein, il faisait, je crois qu'il faisait 150 mètres carrés ou quelque chose comme ça sur 2 niveaux, donc c'était vraiment très 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 grand. Mais il s'était alloué. Donc je me disais, au pire, si on veut arrêter, c'est pas grave. Voilà, on arrête et puis on trouve un autre bailleur et puis voilà. Donc il y avait moins la corde au cou que le local dans lequel j'étais, où là c'était voilà, on était propriétaire et il fallait quand même que on pouvait pas s'en débarrasser comme ça, quoi. Et donc on a pris ces bureaux juste à côté. On en a fait mon bureau, un atelier, un espace aussi où un petit peu salon où on pouvait rencontrer les clients qui venaient pour travailler avec nous, etc. Et c'est là où la partie fleurs a vraiment explosé, parce que comme j'avais la place, j'ai pu faire plus d'événements, des plus gros événements, véhiculer plus d'images en lien avec la fleur aussi, et pouvoir aussi proposer beaucoup plus de bouquets au café. Donc il y a notamment les week-ends, vraiment il y avait des fleurs partout, quoi. Il y avait vraiment beaucoup beaucoup de bouquets sur la dehors aussi, on mettait beaucoup de bouquets à emporter, etc. Donc ouais, la fleur a très 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 vite pris plus de place que le café, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que dans mon cœur aussi, en fait, d'entrepreneur. C'est j'adorais être au café, j'adorais prendre mon café le matin avec mon gâteau, avec mon staff, etc. Mais je ne prenais plus du tout de plaisir à être derrière le comptoir. Plus du tout. J'étais bien dans mon atelier, au calme, tranquille, en train de faire mes bouquets, de répondre à mes clients, mais je prenais plus de plaisir derrière le comptoir.
Mais ce qui est fou, c'est que ça n'a rien à voir avec tout ce que tu avais fait avant, où tu étais quand même beaucoup plus exposée. Tu vois, DJ, tu es quand même devant des foules. Tu vois, là, tu es dans un atelier. Enfin, pour toi, comment tu as géré ce contraste, tu vois, des activités et des environnements?
Au final, je pense que j'ai renoué avec ma nature première, parce que je ne suis pas quelqu'un... j'ai jamais eu, tu sais, je ne sais pas, par exemple, d'énormes bandes de copains. J'ai jamais été, même si j'étais DJ pendant plusieurs années, je n'ai jamais été une grosse fêtarde, mais pas du tout. J'étais la première à rentrer, la première à ne pas sortir. Vraiment, vraiment. Donc j'ai toujours été quand même un petit peu solitaire, et en tout cas à aimer mon petit confort toute seule. Voilà, je suis pas quelqu'un de très 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 sociable, vraiment. Et je pense qu'avec la fleur, j'ai renoué un petit peu avec ce que je suis vraiment, en fait, c'est-à-dire que ce besoin de calme, ce besoin d'introspection, ce besoin d'être tranquille, de rien devoir à personne et de faire mon truc dans mon coin, et voilà. Ouais, j'ai rebasculer vers ce que je suis vraiment, en fait. Je pense que c'est ce que j'ai toujours été. J'ai aimé cette phase d'exposition, de mannequinat, etc., parce que ça m'a aidé à reprendre beaucoup confiance en moi aussi, de par la jeune fille que j'étais avant. Ça m'a beaucoup aidé pour ça, et je pense que ça a vraiment créé les bases de l'entrepreneuse que je suis maintenant. Mais ça m'allait à une période de ma vie qui, là, après avoir ouvert Pionise, ne m'allait plus. C'est voilà, j'avais plus envie de ça. J'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie de me retrouver et de faire les choses pour moi et d'être moins exposée. Clairement, d'être moins exposée. Quand j'allais au café, Il y avait des moments où il y avait des gens qui me reconnaissaient de par ce que j'avais fait avant, de la télé, de tous ces trucs-là, et ça me mettait extrêmement mal à l'aise, mais vraiment très 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 mal à l'aise. Et pourtant, j'étais pas Angelina Jolie, tu vois, j'étais pas non plus quelqu'un qui était vraiment très connu, même pas du tout. Mais les gens qui venaient au café venaient parce qu'ils me connaissaient d'abord moi, en tant que personne. Et il y avait des moments où ça me gênait vraiment beaucoup, où je le sentais, où les gens venaient me parler, etc. Alors oui, j'aimais bien échanger sur ma vie, etc. Mais c'est vrai que je le choisissais pas, en fait. Donc, c'était des gens qui venaient un petit peu de manière intrusive, me posaient des questions, etc. Et à des moments où j'avais pas du tout envie d'échanger à ce moment-là, je voulais juste prendre mon café, ma part de gâteau et aller me cacher dans mon studio. C'est tout ce dont j'avais envie. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas aujourd'hui, voilà, d'avoir abandonné toute cette partie-là et d'être dans mes fleurs, d'avoir quitté Paris aussi. Voilà, j'ai vraiment renoué avec ce que je suis vraiment. Et quand je retrouve un peu de sociabilité, justement, quand je retrouve des amis, quand je retrouve la ville, quand je retrouve tout ça, je prends d'autant plus de plaisir, du coup, à retrouver tout ça parce que j'ai réussi à faire en sorte que ça finisse par me manquer quand même un petit peu. J'ai réussi à trouver un équilibre, en fait.
Et donc, attends, parce que sur la boutique, parce qu'après, effectivement, il y a encore une autre bascule. Donc, attends, juste pour revenir sur la boutique, pour les gens qui ont envie de... Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent ouvrir un commerce, alors pas forcément café floriste, mais est-ce que toi, tu as des recommandations là-dessus quand tu as envie d'ouvrir ta propre boutique? Est-ce qu'il y a des choses... voilà, à mettre en haut de ta to-do, à checker.
Alors déjà, comme tu disais, en fonction de ce que tu veux ouvrir, se former. C'est-à-dire que là, je sais pas, si quelqu'un a envie d'ouvrir un atelier de céramique et de faire ses propres céramiques, bah forme-toi, c'est là. Si tu veux ouvrir un coffee shop et que tu veux servir toi-même ton café, et ne serait-ce que juste savoir de quoi tu parles, en fait. C'est-à-dire que même si tu es le ou la boss et que tu laisses des gens travailler pour toi, si tu veux que ton staff et confiance en toi et te considère vraiment comme une boss qui sait de quoi elle parle, forme-toi au moins un minimum juste pour savoir en fait de quoi ça parle et pas voilà ce à quoi tu touches en fait, pour pouvoir voilà échanger avec ton staff, avec ta clientèle, avec tout ça. Ça c'est hyper important. Ne pas négliger voilà toute cette partie administrative et compagnie, même si ça fait peur, même si c'est, il y a des gens qui sont littéralement allergiques à ça et je le comprends infiniment. Moi, cette formation 5 jours pour entreprendre, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Ne te prive pas d'un comptable quand tu peux aussi, parce que c'est une perte de temps gigantesque, surtout quand tu as une boutique et que tu as du staff et que tu as tout ça. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je connais plein de personnes aujourd'hui, d'entrepreneurs qui ont des boutiques et qui gèrent de restauration, hein, et qui gèrent aussi cette partie-là eux-mêmes. Mais c'est intense. C'est vraiment intense. Et n'hésite pas à déléguer quand tu le peux. Et tant que ça reste dans ton budget aussi. Hein. L'idée, c'est pas non plus de vider toute ta trésorerie pour avoir le moins de choses à faire. Moi, il y a un moment où j'ai un peu trop abusé, justement, parce que je voulais tellement me centrer sur les fleurs que j'ai un peu trop délégué. Et ça a été une période un peu plus compliquée. Après, on est revenu sur les rails, mais ça a été une période un peu plus compliquée. Donc, savoir jauger, en fait, vraiment tout ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas indispensable non plus.
Oui, parce que alors là, on a donné hyper envie d'y aller, mais sachez qu'effectivement, Péonise est fermée.
Oui. alors, ouais.
Donc, il faut que tu nous racontes la suite.
En fait, quand le déclic, en fait, c'est quand je suis tombée enceinte en juin ou mai 2019. Et mon compagnon, en fait, m'a dit, OK, alors, on a tous les deux des horaires de dingo, parce que lui, il rentrait à 2, 3 heures du mat tous les soirs, parce qu'il avait un...
Oui, parce qu'il était encore au bar à cocktail.
Il avait toujours son bar. Ouais. Et il m'a dit, moi, en fait, ça y est, je pense que j'ai fait, voilà, c'était mon bébé, c'était mon projet, etc., mais, j'ai envie de voir notre enfant, j'ai envie de passer du temps avec lui, donc j'arrête, je vends mes parts et je m'occupe de notre fils. Et toi, comme ça, tu peux te mettre à fond dans Péonise. Donc moi, sur le coup, très bien, parfait, pas de stress du coup pour le travail, etc., pour le petit, tout va bien. Et puis très très vite, je me suis dit, bah oui, mais je crois que moi aussi, en fait, j'ai envie de m'occuper de notre enfant. Moi aussi, j'ai envie de le voir, j'ai pas envie de faire des journées de dingue comme je fais tous les jours. J'ai envie de passer du temps avec lui. Voilà. Donc ça a été une grosse remise en question. Et sur donc fin 2019, j'ai commencé à me poser la question de savoir si je continuais ou pas. Dans ma tête, c'était allez, encore un an à peu près, quoi. Un an et puis après tu vends. Donc j'avais commencé à mettre des fausses annonces un peu sur le bon coin pour voir si le tarif que je voulais pour le fonds de commerce était à peu près correct ou pas, s'il y avait des retours ou pas aux caisses. Et mon but, c'était pas de le vendre à là dès le lendemain. C'était vraiment pas du tout l'idée. Au final, on n'a pas eu de touche, on n'a rien eu du tout, donc j'ai laissé traîner. J'ai continué, mon ventre a continué à grossir aussi, et il y a eu plein de choses en fait. Il y a eu les manifestations des gilets jaunes et compagnie qui ont fait que moi, en fait, comme j'habitais en région parisienne et que je pouvais plus prendre mon scooter parce que j'étais enceinte jusqu'aux yeux, j'étais tributaire des transports et je ne pouvais plus aller à mon café parce qu'en fait, les gens étaient tellement, je ne sais pas si tu te souviens, étaient tellement collés, serrés dans les transports. Que c'était devenu trop dangereux pour moi d'être dans le bus où voilà, les gens te laissaient même pas la place pour t'asseoir. Enfin, j'ai vraiment eu très peur pour mon bébé, quoi, et pour moi. Donc j'allais un peu moins au café, mon associé prenait un petit peu plus le relais, mon compagnon aussi, il m'aidait aussi. Et voilà, après ça s'est calmé, donc j'ai pu de nouveau revenir un petit peu au café et j'avais un peu voilà géré comment ça allait se passer par la suite avec mon congé mat et tout. Et puis j'accouche et 3 jours plus tard, premier confinement. Donc voilà, au final j'ai eu ce que je voulais, hein. Je suis restée à la maison avec mon bébé, donc c'était très bien. Confinement qui dure, et puis grosse remise en question, et là c'était mais hors de question de réouvrir pour moi en fait. C'était le déclic, il était là quoi. C'était non mais là c'est je ne veux pas réouvrir, je ne veux pas me remettre dans le stress que j'avais avant. Je veux rester avec mon fils, je veux rester avec mon mec mais ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas abandonner la flore, c'est vraiment mon truc, je veux continuer. Mais je veux autre chose. Voilà, faire des ateliers, j'avais déjà commencé à faire beaucoup de cours particuliers, de choses comme ça, je veux faire ça, mais tout le temps, en fait. Et voilà, et donc on a fini par vendre le fonds de commerce. Donc, on a trouvé repreneur et j'ai signé la vente, c'était encore une fois en octobre. En octobre 2020. J'ai remis les clés sans vrai regret parce que je savais que mon aventure florale allait continuer, donc ça m'avait un petit pincement quand même hein, quand je suis allée chercher toutes les affaires, enlever la déco, garder les derniers trucs, les couverts, les tasses, les choses comme ça. Bon voilà, ça m'a fait quelque chose, mais j'étais nostalgique, mais j'avais pas peur, j'étais pas angoissée, je me disais pas ah, tu fais peut-être une connerie et tout. Comme ça ne m'épanouissait plus et que mon rôle de maman vraiment avait changé quelque chose en moi, j'étais confiante et je savais que c'était une bonne chose.
Et les gens reprenaient pour faire la même chose que toi ou
non? Pas du tout. Et j'ai pas vendu Pionise, j'ai pas vendu la marque, j'ai pas vendu le concept, j'ai vendu le fonds de commerce, c'est tout. Donc quand bien même, je pense vraiment que si j'avais eu un acheteur qui m'avait dit je veux faire la même chose, j'aurais refusé l'acheteur. Parce que c'était mine de rien quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était le premier café fleuriste parisien, c'était mon bébé, et je ne voulais en aucun cas que quelqu'un reprenne le concept, reprenne le nom, reprenne le lieu, reprenne tout, sans que ce soit moi derrière. Et en fait, les nouveaux propriétaires, vraiment strictement rien à voir, mais il y avait quand même un petit peu une connexion quand même avec eux. C'est la poissonnerie Ebisu. Donc, bon, quand on dit une poissonnerie qui apprend un café fleuriste, ça ne fait pas très sexy, mais en fait, c'est une poissonnerie d'inspiration japonaise. Et moi et mon compagnon, on a un amour infini pour le Japon. Le prénom de notre fils est inspiré d'un mot japonais. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour ce pays. Et c'est un couple franco-japonais qui avait ouvert dans le Marais une première poissonnerie et ils ont ouvert une autre à la place de Pionise. Et donc, j'étais très heureuse au final que ce soit eux. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils m'ont dit « on va tout changer ». Donc le carrelage vert, parce que on avait pris avec mon architecte, on avait pris un grand parti pris en termes de décoration, et on a dit voilà, on change tout, vraiment, littéralement, effectivement, ça ne ressemble plus du tout, même la disposition, plus rien ne ressemble à ce qu'était Pionise avant. Donc ça m'a permis aussi de faire le deuil en soi, parce que voilà, maintenant il ne reste plus rien, c'est comme si ça avait juste disparu.
Oui, sauf que comme tu le disais, toi, t'as un peu poursuivi ce truc-là parce que t'as fini par quitter Paris pour ouvrir. Alors là, c'est pas vraiment... je sais pas comment t'appelles ça. Est-ce que tu fais des ateliers autour des fleurs? Tu fais plein
oui,
de choses.
Oui, c'est ça. Moi, je décris ça plus comme un studio floral. En fait, on avait cette envie de partir de Paris parce que, bah, encore une fois, voilà, avec un petit garçon, tout ça, on avait très envie de ça. Mon compagnon, lui, avant d'ouvrir ce café, son job quand même principal, son fil conducteur depuis toujours, c'était photographe. Et il avait fait beaucoup de formations en retouche, etc. Et on était parti avec l'idée que, bah voilà, lui, il pourrait être retoucheur à la campagne. Et puis moi, je pourrais monter ce studio. Je voulais aussi faire pousser mes propres fleurs pour être autosuffisante, faire mes ateliers et continuer à faire du mariage. Ça, c'était quelque chose que je faisais déjà avec Pionine, mais j'avais envie de le développer encore plus en partant à la campagne dans une autre région. Donc, on a cherché des maisons, on a visité beaucoup de maisons, une quarantaine de maisons avant de trouver la maison.
Ah ouais.
C'était très 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 long et littéralement vraiment celle-ci c'était l'avant-dernière sur notre liste et on s'était dit la veille au soir, on s'était dit bon écoute on est ok que si là dans les deux derniers jours de visite qu'on a c'est pas la bonne, on remet à plus tard. Tant pis, on retrouve un job sur Paris, on fait quelque chose en attendant jusqu'à ce qu'on trouve le coup de cœur vraiment sûr et c'est la bonne. On avait eu beaucoup de déceptions aussi et des maisons au final qui n'avaient pas marché parce qu'il y avait eu des soucis, des surprises. On avait fait venir des entrepreneurs qui nous avaient dit ah non, là il y a de l'amiante, là il y a ceci. Enfin bon, voilà, que des choses qui nous avaient complètement refroidi. Et avant dernière maison, on arrive ici, donc dans un tout petit village de Mayenne, une maison complètement isolée au bout d'un chemin, donc c'est ce qu'on voulait. Et tout de suite en fait on s'est regardé au-dessus de nos masques parce qu'à ce moment-là on mettait encore des masques et avec le dos on bute nos yeux, ils ont pétillé quoi. On a fait ouais ok, là c'est vraiment la config qu'on veut, on est trop bien, il y a des bonnes vibes, on sent rien de mauvais, on y va quoi. Et voilà, et on a fini par acheter cette maison. Bon alors on n'est pas là pour parler des travaux et compagnie, mais ça a été un long parcours du combattant. Les travaux, on a deux bâtiments à rénover et là on vient à peine de commencer le premier, donc voilà, c'était quand même il y a 2 ans hein, quand on a signé, donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à raconter pour un podcast entier que sur ça, mais voilà, on a fini par trouver cette maison, en plus avec un terrain pour moi, je l'ai sous les yeux là pendant que je te parle, où je peux faire pousser mes fleurs, et ça a été un petit peu long aussi pour moi de me remettre au final sur les rails professionnellement parlant, parce que bah, j'avais changé de région, donc tous mes contacts à Paris ne me faisaient plus travailler, ou alors si, ils me sollicitaient, mais bah oui, il fallait que je facture quand même le trajet, il fallait que je facture pas mal de choses en plus, et bon bah voilà, ça les arrangeait pas, ils préféraient prendre des fleurets sur Paris, donc je voyais un petit peu ma clientèle commencer à s'évaporer, les travaux étaient pas faits, mon champ était pas en fleurs, donc pour faire les ateliers la première année c'était un peu complexe, et dès la deuxième année, donc dès 2022, voilà, ça a été, on a sorti la tête de l'eau et tout s'est remis, tout s'est aligné de nouveau. J'ai pu faire mes ateliers, mes fleurs ont poussé comme il fallait. Parce qu'entre-temps, j'avais eu ma serre qui s'était envolée, retournée avec tous mes semis. Donc, tout mon travail de tout l'hiver était anéanti, par terre. Plus rien. Plus rien. Je me suis effondrée en larmes. Enfin, vraiment, ça a été... j'ai des amis formidables qui m'ont fait une cagnotte pour me racheter une serre. Enfin, voilà, heureusement, j'ai été merveilleusement entourée. Mais on a eu plein de galères qui se sont enchaînées. Et là, bon, voilà, encore une fois, donc à partir de 2022, l'année dernière, tout s'est remis back on tracks. Et j'ai pu refaire beaucoup d'ateliers.
Parce que jusque-là, tu faisais comment financièrement? T'avais un peu de côté quand t'avais les CPO?
On avait un peu de côté tous les deux avec mon compagnon. Mais c'était pas foufou non plus. Hein. C'était pas de quoi tenir plus d'une année, quoi. C'était léger. Plus l'achat de la maison. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de... C'était clairement compliqué. C'est-à-dire que si j'en mettais pas rapidement mon avenir professionnel sur les rails, j'aurais très bien pu trouver un job par défaut, comme je parlais au début du podcast. Hein. J'aurais très bien pu faire vendeuse chez Biocoop pour pouvoir remplir mon frigo. Hein. Vraiment, littéralement, j'aurais pu. Parce que c'était une phase, bah, comme ton podcast l'indique, de bascule. Donc, il fallait après que la balance, elle se remette droite. Quoi. Et ça a bien mis ouais, une bonne année avant que ce soit le cas. J'ai pas lâché parce que c'était viscéral, la fleur pour moi, c'était vraiment un truc qui me portait, qui m'aidait, et je croyais vraiment en ce projet et je croyais en moi. Je savais que pour la première fois de ma vie, en fait, je savais que j'étais douée pour quelque chose. C'est pas du tout pédant de dire ça, hein, c'est vraiment juste j'avais quelque chose en moi qui me disait tu fais ça et c'est bien et ça te convient. Donc va au bout de ce truc. Autant les autres activités...
Ouais, c'était une de tes zones de talent.
Ouais, autant les autres activités, c'était, fais-le, et puis, bon, voilà, tu vas un petit peu patauger, et puis, bon, tu trouveras toujours quelqu'un qui sera satisfait à la fin, mais tu seras jamais satisfaite à 100%, et là, je suis heureuse de ce que je fais, j'aime ce que je fais, et j'aime transmettre ça aujourd'hui. Maintenant, je fais des retraites florales, là c'est ma troisième maintenant. J'ai des femmes qui viennent du monde entier pour apprendre l'art floral avec moi et c'est un bonheur infini. Des femmes qui viennent jusqu'à, je dis des femmes parce que j'ai principalement vraiment à 99% des femmes qui viennent me voir, qui viennent au fin fond de mon atelier en Mayenne pour apprendre avec moi des techniques d'art floral et en faire leur métier aussi. Beaucoup, beaucoup de gens en reconversion. Je fais des mariages géniaux, grandioses dans des endroits magnifiques avec, pareil, des clients de l'étranger qui me font confiance à 100% dans leur déco. Et ça a été un véritable turnover, quoi. Vraiment, ça a été un changement radical. Ça a été un nouveau souffle, vraiment. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes de quitter Paris, de quitter tout, de fermer ma boutique qui marchait au final, qui avait des hauts et des bas, mais qui pouvait tenir encore plusieurs années comme ça, quoi. J'aurais pu en ouvrir d'autres. On m'avait fait des propositions aussi pour en ouvrir d'autres ailleurs dans Paris, et au final, je l'ai pas fait, et je regrette pas parce que j'aurais été enchaînée, en fait, à ce projet. J'aurais été enchaînée à Paris, j'aurais été enchaînée à ce café, j'aurais été enchaînée à mon staff. Parce que gérer du staff aussi, je pense que c'est peut-être la partie la plus difficile quand on a une société, et surtout dans la restauration. Donc je regrette vraiment pas une seconde, mais il a fallu un temps. Voilà, tu vois, au tout début du podcast, on parlait de fluidité, que voilà, raconter comme ça, ça paraît simple de passer d'une étape à une autre. Et là, comme celle-ci, c'est la plus fraîche. Je peux vraiment te dire que ça n'a pas été simple du tout. Et que même si sur le papier, sur mon Insta ou autre, on peut se dire « Ah, oh, c'est génial, elle a fait ce qu'elle voulait, elle est partie vivre à la campagne, c'est incroyable, sa maison, elle a l'air géniale, et blablabla. » Oui, ma maison est géniale, j'adore ma nouvelle vie, mais ça a été très dur. Ça a été très compliqué pour que aujourd'hui on soit en phase, on soit bien dans notre maison, on soit bien professionnellement. Voilà, ça a été... Il y a eu un parcours. Il y a eu pas un parcours avant ça et on n'a pas tout comme ça, quoi. Et heureusement, parce que sinon, la vie serait chiante.
Mais ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup. Derrière chaque bascule, tu as toujours une phase de galère, de toute façon.
Oui.
Enfin, 9 fois sur 10.
Oui, oui. Enfin, c'est certain. Et puis, je pense que ça fait partie du process au final.
Ouais.
Ça ne peut pas être tout lisse, quoi.
Du coup, j'ai une dernière question rituelle pour toi, Clémentine, qui est: quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer?
Oh, c'est pas facile.
Je sais.
Mon conseil pour les gens qui ont envie de basculer, on va aller dans un gros cliché, mais c'est le premier truc qui me vient en tête, donc je vais le dire, c'est de se faire confiance. Je sais à quel point ça peut être très 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 difficile, parce que moi-même, je n'ai fait que douter dans toutes mes activités depuis que j'exerce mes différents métiers. Mais c'est se faire confiance et puis et beaucoup, beaucoup discuter avec son entourage, avec ses amis, avec sa famille, surtout avec ses amis, pour réussir à voilà aussi bien se détendre et un peu voilà lâcher prise sur le stress que ça peut être justement d'être entrepreneur. Et puis pour pouvoir avoir de nouvelles idées aussi, pour avoir voilà un nouveau souffle et pouvoir se redonner un petit peu de motivation quand on est sur un projet et que ou quand on a envie, rien que juste avoir l'idée de vouloir voilà, se lancer dans une nouvelle transition professionnelle, ne pas le faire tout seul, toute seule. Essayer de garder son entourage avec soi pour avoir un véritable soutien. Je pense que voilà, c'est le premier truc qui me vient, en tout cas. Je pense que c'est ça le plus important.
Génial, merci beaucoup pour ce conseil. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, donc il y a ton compte Instagram, c'est peonise.studio.
Alors j'en ai deux. J'ai peonise.studio pour tout ce qui est mes ateliers, mes fleurs coupées, etc. Et puis pour vraiment mon contenu purement mariage, c'est peonise.weddingflowers.
D'accord, ok. Et t'as le site internet?
Oui,
aussi.
J'ai le site aussi, peonise-studio.com.
Super, bah, merci.
Merci
beaucoup.
À toi.
Merci pour ton temps.
Avec plaisir, à bientôt.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.